prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, de Morija à Golgotha.
On va ouvrir un texte de la Bible et on va faire une méditation. Et le sujet, ça sera tout simplement comment faire croire le grand miracle du salut en Jésus-Christ. Alors, il y a certainement des convaincus au milieu de nous, mais il y a un message à faire passer. Parce que c'est quelque chose de très, très grand, très glorieux, c'est très beau. Mais comment faire comprendre à notre humanité, aux hommes de notre temps, et peut-être aussi peut-être ceux qui auraient pris du recul par rapport à la foi? Alors, pour ce faire, eh bien, on va lire une belle histoire. Une belle histoire qui se trouve dans le livre de la Genèse. Et on va prendre les choses au fur et à mesure. Il s'agit d'un homme que nous connaissons bien dans l'histoire biblique. Il porte un nom que tout le monde connaît. C'est le nom d'Abraham. Oui, hein? Alors, on va essayer de comprendre qu'à travers, eh bien, tout simplement, ce que Dieu a voulu faire à travers un homme, d'une manière très imparfaite, incomplète, où Dieu a tout simplement eh bien, dessiné son plan de salut, ce qu'un homme ne pouvait pas réaliser, ce que les hommes ne peuvent pas réaliser, eh bien, c'est Dieu qui, beaucoup plus tard, après Abraham, le réalisera d'une manière parfaite, totale. Alors, on va commencer, on va prendre le chapitre 22 du livre de la Genèse, et on va tout simplement eh bien, relater cette histoire, et je vais lire les premières lignes, et puis ensuite on ira de verset en verset pour apporter eh bien, ce commentaire biblique. Verset premier, il nous est dit simplement « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il lui répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ». « Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Ça commence comme ça, cette histoire. Et vous allez voir que c'est une histoire d'une grande élévation de pensée, puisqu'il s'agit du salut, qu'il s'agit tout simplement eh bien, de ce qu'il y a au cœur du salut, c'est-à-dire l'expiation des péchés, du mal qui est dans ce monde. Et nous voyons que tout de suite, dès l'abord, il est simplement dit, après ces choses, après quelles choses, qu'est-ce qui s'était donc passé avant? Alors il s'en est passé des choses avant. Et je ne vais pas revenir sur les 21 premiers chapitres du livre de la Genèse, mais on le sait tous. Mais toujours est-il que ça concerne un homme, ça concerne Abraham. Qu'est-ce qui s'était passé pour lui avant, finalement, ce rendez-vous du chapitre 22? Abraham était un homme qui vivait dans un pays de paganisme total. C'était la Chaldée, particulièrement la ville d'Ur, U-R. Ensuite, il a poussé ses pérégrinations jusqu'à Charan. Mais là, déjà, il en savait déjà un peu plus. Et Dieu lui a parlé. Et il lui a dit tout simplement une chose révolutionnaire pour un homme de son temps, un homme qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaissait rien, mais dont Dieu avait vu que parmi cette société, cette civilisation, Abraham avait un cœur susceptible d'accueillir la foi. Et il est devenu par la suite référence pour tous les Juifs et référence pour le monde entier, pour le monde chrétien aussi, pour le monde islamique, c'est-à-dire eh bien, le père des croyants. Et après ces choses, voilà l'histoire. avant ces choses, il entend une voix, il entend un appel qui est l'appel d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Et ce Dieu-là lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père, et va là où je te montrerai d'aller. Et il y croit, figurez-vous. C'est un aventurier, Abraham. Et il croit à cette parole. Il ne sait pas d'où ça vient. Il ne sait pas qui c'est qui lui a dit. Il ne sait pas où il va. Mais il croit à cette parole. Et il rassemble ses affaires. Il liquide ses biens. Et le voilà parti pour un pays complètement inconnu. Mais il croit. Alors, Dieu peut lui faire confiance, en quelque sorte. Avant que les hommes fassent confiance à Dieu, eh bien c'est Dieu qui fait confiance aux hommes. Et ça commence comme ça, cette aventure. La belle aventure de la foi qui va amener les hommes à se servir d'un homme. Ensuite, de ses descendants, de sa postérité. Et puis après, d'un peuple. Et puis après, ça sera multiplié par des dizaines, des centaines, des milliers, des millions et des millions d'hommes pour parvenir jusqu'à nous dans cette foi qui est la foi d'Abraham. Alors Dieu lui fait confiance parce qu'il a déjà obéi une fois. Vous savez, quand on commence à obéir une fois, quand on commence à obéir un tant soit peu, on est déjà sur le chemin d'une belle aventure avec Dieu. Mais il faut y croire. Et il n'avait rien pour y croire. Il avait seulement entendu une voix. Alors, voilà la tragédie. Dieu aurait pu lui dire, « Eh bien, puisque tu m'as obéi jusqu'à maintenant, je vais te bénir. » Mais Dieu lui avait dit d'ailleurs qu'il bénirait. Mais là, ce n'est pas une bénédiction, c'est Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alors on s'attendrait peut-être à autre chose. Comme dans la mentalité peut-être souvent religieuse ou de piété qui anime beaucoup d'hommes, « Seigneur, eh bien je t'ai obéi, j'ai fait ceci, je crois en toi, tu me bénis encore davantage. » Mais là, ce n'est pas une bénédiction. C'est une mise à l'épreuve. Mais vous comprendrez que cette mise à l'épreuve, c'est pour avoir d'autres bénédictions. Alors ça, c'est incompréhensible. On se dit, mais je ne comprends plus là. Tu me demandes ceci, je fais, je t'obéis, je suis bien disposé, et tu m'envoies une épreuve, Seigneur. Mais je ne comprends plus rien. Alors, Dieu le met à l'épreuve, et vous savez le sens des épreuves. Pour ceux qui savent reconnaître, qui ont la perspicacité, la fibre spirituelle, ils savent que toutes les épreuves, les afflictions, les difficultés, ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous faire périr, ce n'est pas pour nous neutraliser ou faire de nous eh bien, des malheureux, c'est pour aller encore plus loin. Ça, il faut le comprendre. Faut le comprendre. Alors, il est mis à l'épreuve et Dieu s'adresse à lui et lui dit « Abraham ». Parce qu'avant, il s'appelait Abraham. Alors, Abraham, ça veut dire une chose, c'est « père d'élévation ». Ou le père qui est élevé. Maintenant, Dieu lui dit Abraham, qui veut dire père d'une multitude, père des nations. Et on va voir pourquoi il est appelé Abraham maintenant. Et ça, c'est aussi déconcertant. Il lui dit, me voici. Il lui répond. Parce que, je le disais il y a un instant, quand on commence à dire oui à Dieu, quand on lui dit, me voici, je suis là, quand je me rends disponible, quand je me mets à la disposition de Dieu et de sa volonté, eh bien, ça ne s'arrête pas là. Il va y avoir encore d'autres choses qui vont se passer, d'autres demandes. Et Dieu va lui dire une chose terrible. Tu prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est une catastrophe. C'est une tragédie. Abraham se dit, je suis appelé Abraham, père d'une multitude. Je n'ai qu'un fils. Et Dieu me demande de le sacrifier. Donc je ne pourrai jamais être le père d'une multitude, puisque mon enfant, on me demande de le faire mourir. Vous comprenez? C'est compliqué une chose pareille. C'est difficile de suivre la pensée de Dieu. Dieu donne le fils de la promesse. Et voilà que, après une si longue attente, 25 ans d'attente pour avoir un fils. Oh, il y a bien l'autre. Vous connaissez Ismaël? Oh, quelle tragédie encore pour les jours d'aujourd'hui que nous vivons, Ismaël. Avec Israël. Parce que c'est ça, la grande histoire du monde. Une histoire qui nous colle aux chaussures. Une histoire qui crève les cœurs. Et qui normalement est toujours... finalement, une histoire où on parle de paix, mais il n'y a jamais la paix. Elle n'est pas possible, cette paix. Et voilà qu'il entend cela. Seigneur, tu me demandes de te sacrifier. Vous avez bien entendu, sacrifier, faire mourir, enlever la vie. Et Abraham dit, mais pourtant je porte un nom qui est le nom le plus beau qui puisse exister, père d'une multitude, et voilà, le seul, l'unique, celui que j'aime, le seul que je puisse avoir, qui est véritablement celui que Dieu m'a donné, le fils de la promesse, si longtemps attendu, eh bien je ne serai jamais le père d'une multitude, puisque voilà le seul que j'ai, on me le reprend, Dieu me le reprend. C'est terrible, c'est un drame. Alors il faut bien comprendre les choses. Dieu lui dit, tu prends ton fils, c'est pas moi qui vais le prendre. Oui, c'est toi qui vas le prendre. Mais tu ne te trompes pas, c'est vraiment ton unique. C'est celui qui, tu as pleuré, tu as prié pendant si longtemps pour l'avoir, et maintenant je te le redemande. Mais Seigneur, je ne comprends plus, c'est de la folie. C'est quelque chose qui n'arrive plus, je n'arrive pas à comprendre. Alors il précisera, mais celui que tu aimes, bien que je suis sûr que Abraham aimait aussi Ismaël. Mais là, c'est tout à fait particulier. Et si tu te trompes, Abraham, si tu te trompes de fils entre Ismaël et Isaac, moi, je te dis que c'est quand même Isaac. Et c'est avant tout Isaac. Tu ne te trompes pas. C'est bien cela. Alors, ce mot qu'il avait déjà entendu des années auparavant, va-t'en. Le même va-t'en, quitte ton pays, ta patrie, mais va-t'en, mais dans un endroit qui sera différent, celui-ci. Va au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. Tu vas faire un sacrifice sanglant sur l'une des montagnes que je te dirai. Avez-vous réfléchi à la signification du mot Morija? Vous savez ce que ça veut dire? C'est l'Éternel voit ou l'Éternel pourvoira. On en parlera d'ici quelques instants. Et ce que nous allons faire un grand saut dans l'histoire cet après-midi. C'est que nous allons passer de Morija à Golgotha. Vous savez où se trouve Morija? Vous savez où se trouve Golgotha? Eh oui, c'est très facile à comprendre. Morija se trouve exactement sur l'emplacement du temple de Jérusalem aujourd'hui. Vous voulez la preuve? Ben, je vais vous la donner. Regardez, 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1er. Il nous est dit ceci. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de... Ben vous n'avez pas encore ouvert votre Bible, là. Excusez-moi. Sur la montagne de Morija, on reprend 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1er. Excusez-moi, je suis rapide. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David, sur l'aire d'Onan. Vous vous souvenez de l'histoire de l'aire d'Onan? Ça vous dit quelque chose dans la culture biblique? Le Jébusien, alors on ne va pas revenir là-dessus parce que je ne veux pas, quand même que je ne m'écarte pas trop de mon sujet, mais toujours est-il qu'il y a eu un drame là aussi, dans l'aire d'Onan. Eh oui, Morija, l'emplacement du temple de Salomon, l'emplacement du temple de Jérusalem. Voilà. Donc tout ça, ça se trouve à vol d'oiseau, je vous dirai à 300-400 mètres, Morija se trouve à 300-400 mètres et encore de Golgotha, à côté du Mont des Oliviers, au nord-est de Jérusalem. Voilà, c'est la même chose. Alors, à ce moment-là, je dois le préciser pour l'histoire, Abraham habita Beersheba, c'est-à-dire juste à la limite du Négev, dans le désert de Juda. Voilà. Et Dieu lui parle là alors qu'il est à Beersheba. Et il lui dit tout simplement, tu as bien entendu Abraham, je te demande de le sacrifier, je te demande de l'offrir en sacrifice, je te demande de faire un holocauste, c'est-à-dire que ton fils il va mourir. C'est terrible. Et cette montagne de Morija, tu le sacrifieras là où je te dirai, à cet emplacement-là. Vous savez, dans la marche avec Dieu et la marche par la foi, je le dis et je le redis, Dieu ne nous donne pas le programme tout de suite, parce que s'il nous donnait le programme tout de suite, on n'irait jamais. Il nous dit, tu commences à A, le second pas c'est B, après c'est C, et ça finit par... C'était sûr. Ça finit par Z. Voilà. Et on ne connaît pas le programme. Et heureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie, si nous connaissions les choses, et même quand c'est Dieu qui nous les donne, eh bien, on n'irait pas. Je vous le dis franchement, on n'irait pas. Même avec la plus grande confiance. Et Dieu nous dit, tu vas marcher par la foi. Mais rassure-toi, je suis avec toi. Rassure-toi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. C'est pas vrai, ça ? Oui. Alors, on continue. Abraham entend cela. Et l'attitude qu'il va avoir, qui est vraiment surprenante, parce que si j'avais été à sa place, si les uns et les autres en avaient été à sa place, on aurait certainement gambergé, hein, parce qu'il a entendu des choses qui sont incompréhensibles, et on dirait aujourd'hui, humainement parlant, inadmissibles, intolérables. On dirait même peut-être monstrueuses. Mais ça fait partie de l'ère du temps, parce qu'à ce moment-là, les civilisations, dans cette antiquité lointaine, les peuples païens, c'était une pratique courante de prendre un garçon, une fille, un jeune homme, une jeune fille, de prendre un enfant et de l'offrir au dieu du paganisme. Pour une raison ou pour une autre. Ça, c'était quelque chose de courant. Quelle horreur ! Imaginez-vous aujourd'hui les ligues des droits de l'homme. C'est comme ça. Mais vous allez voir pourquoi. Parce que l'affaire, elle nous ramène dans notre société d'aujourd'hui. Elle nous conduit dans notre société d'aujourd'hui et elle nous parle. Parce que quand de l'Antiquité on offrait un enfant en sacrifice sanglant pour qu'il n'y ait pas la guerre, qu'il n'y ait pas la peste, que l'on soit délivré de telles maladies, de ses ennemis, ceci et cela, c'était un sacrifice, c'était quelque chose d'abominable. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de sacrifice parce que, je vous l'ai dit et je vous le rappelle, on va passer de Morija à Golgotha. Et Golgotha, ça a un sens. Parce que Golgotha, ça veut dire, quelque part, même si le nom n'est pas très significatif, ça veut dire lieu du crâne, mais en tous les cas, c'est là où la paix a été faite entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu, enfin surtout entre Dieu et les hommes, par un intermédiaire, un médiateur qui s'appelle tout simplement Jésus-Christ. Abraham entend cette parole, et malgré qu'il ait entendu cette parole, eh bien la première heure, aux aurores, il se lève et de bon matin, il selle son âne, il prend avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il va même faire davantage. Il fend du bois parce qu'il sait que pour mettre le feu, il faut du bois pour l'Holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Seigneur, je ne comprends pas. Comment puis-je faire une telle chose ? On aurait dit, Seigneur, t'en choisis un autre. Moi, je veux bien te suivre, mais jusqu'à un certain point. Je t'ai dit que j'avais la foi, mais là, j'ai plus la foi du tout. C'est pas possible. C'est incompréhensible. Et Abraham a vraiment porté le nom père des croyants parce qu'il a fait. Il n'a pas discuté avec Dieu. Il n'a pas tergiversé. Il n'a pas dit, mais tu es sûr que c'est pas... Non, un père ne l'aurait pas fait. J'allais penser à Ismaël. Non, non. Que ce soit l'un ou l'autre, il ne l'aurait pas fait. Quoi qu'il en soit. Et on voit un homme qui se plie. Il ne comprend pas et il ne cherche pas à comprendre. Il fait confiance. Bravo, Abraham. Formidable. Parce que moi, je veux bien marcher, mais je vais voir où je mets les pieds. Je veux savoir où tu me conduis. Je voudrais quand même comprendre. Lui, il ne pose aucune question. Et puis avec le force de détail, le bon matin, il coupe du bois, il fait ceci, il prend son fils, etc., etc. Et voilà que nous arrivons un peu plus loin. Il nous est dit que le troisième jour. Eh bien, trois jours, c'est long, hein. Ouais, ça passe vite quand les choses sont agréables, mais quand on est dans un enfer, quand on est dans une angoisse comme on pourrait le supposer que pouvait l'être Abraham, trois jours, attendez, trois jours, c'est trois nuits aussi, hein, parce que les nuits n'ont pas disparu, et la nuit c'est encore pire, parce qu'on a le temps de penser, quand on marche, on voit des choses, on peut toujours là être distrait, mais quand on n'arrive pas à trouver le sommeil dans les nuits qui deviennent, eh bien là, épouvantables, trois jours, Abraham à lever les yeux à ce moment-là. Moi, j'aime bien Abraham parce qu'il lève les yeux que quand Dieu lui demande de lever les yeux. Et pas comme son neveu Lot qui a levé les yeux avant que, finalement, Dieu lui demande de lever les yeux. Et il a levé les yeux, il a vu la vallée de Sodome et Gomorre. Il a dit, ça c'est pour moi, je mets la main dessus, j'y vais, je descends. Mais quand il est descendu, il n'est jamais remonté aussi. Vous connaissez l'histoire ? C'est pareil, je passe. Et lui, il a levé les yeux parce que c'était le moment de lever les yeux. Et quand il a levé les yeux, il a vu de loin l'endroit où il fallait aller. Je vous l'avais bien dit qu'il fallait suivre pas à pas le Seigneur, sans se poser de questions, en obéissant, même si quelquefois, eh bien, ça nous submerge. Ça nous submerge de chagrin. Ça nous submerge ce que l'on se prépare à vivre. On le sent. Mais à ce moment-là, il voit de loin là l'endroit où Dieu lui a dit. Et regardez ce qui est dit. Abraham, à ce moment-là, dit à ses serviteurs, il en avait emmené deux, vous souvenez, certainement des gens de la maison, des très proches, quelqu'un qui pouvait être capable de vivre et de comprendre ce qui allait se passer. Il va leur dire ceci. « Restez ici avec l'âne. » Alors là, c'est beau. Hein. « Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là, premièrement pour adorer, et deuxièmement, nous reviendrons vers vous. » Formidable. Il se dirige, après avoir entendu tout ce que Dieu lui a dit, il se dirige et il dit dans son cœur, il pense dans son cœur, et il dit à ses serviteurs, « Nous allons aller là-haut, sur cette montagne, mais nous irons pour adorer. » Ah, on entend déjà presque dans le lointain quelque chose, un bruit, une parole. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ouais, ça viendra. Ça viendra. Ça commence déjà à résonner dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde. Nous allons adorer. J'y vais avec mon fils. Et il garde le secret pour lui. Ça lui crève le cœur, il est malheureux. Mais il va pour adorer. Et il dit les paroles de Dieu, prophétiquement, nous reviendrons. Vous savez, il y en a un qui nous a appris à adorer, c'est Jésus. Il est monté, lui aussi, sur un mont, celui de Golgotha, on l'appelle le calvaire. Et il avait promis à ses disciples, il avait promis à ses serviteurs, qu'après avoir passé sur ce mont, je dis bien passé, il n'a fait que passer, hein, il n'est pas resté, qu'il reviendrait. Il est revenu à la Pentecôte. Il est revenu tout de suite après, 3 jours après, et il revient encore. Nous reviendrons. Qu'est-ce qui pouvait inspirer Abraham dans cette vérité qui n'était pas la vérité des hommes, qui ne pouvait pas être pensée, qui ne pouvait pas être conçue. Même le plus grand de tous les romanciers n'aurait jamais pu concevoir une telle écriture, une telle pensée, un tel scénario. Alors nous reviendrons auprès de vous. Mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer à marcher. Et Abraham prit le bois pour l'Holocauste et il l'a chargé sur son fils Isaac, imaginez-vous. Il porta dans la main le feu et le couteau. Ouais. Imaginez-vous ce jeune homme. Isaac devait avoir peut-être, je ne sais pas, pré-ado, adolescent, jeune homme, peu importe. C'était pas un tout petit enfant, quoi qu'il en soit. Mais quelqu'un qui avait conscience, qui pouvait parler, puisqu'il parle, et qui pouvait poser des questions à son père. Alors, voilà. L'âne et les serviteurs vont rester. Et c'est notre Isaac qui va eh bien, lui prendre toute la charge de ce bois. Et il ne sait pas que le bois qu'il porte, bientôt, il va être dessus sur le bois. Avec ce que l'on peut deviner immédiatement. Et voilà qu'Abraham, lui, il n'a plus que dans les mains. Il a un couteau. Et puis, il a le feu. Vous savez, c'est terrible. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce feu ? Qu'est-ce que c'est que ce couteau ? À quoi peuvent-ils servir ? C'est dans la tête du père, lui, il sait ce qu'il va faire avec. Mais dans la tête de l'enfant. Dans la tête d'Isaac. Vous savez, quand Abraham a appelé son fils Isaac, ou plutôt je crois que c'est Sarai, vraiment, ils avaient envie de rire. Mais là, dans ce chapitre, plus personne n'a envie de rire, ni les uns ni les autres. Parce que c'est terrible, c'est terrible. Alors il porte la main, le feu, le couteau. Et vous avez remarqué, parce qu'on va le retrouver ensemble dans la lecture, ils marchèrent tous deux ensemble. Ça, c'est une des belles paroles qui vient nous encourager. Le fils et le père ont marché ensemble. Ils étaient d'accord. Il y en a un qui savait, l'autre qui ne savait pas, mais il était d'accord. Vous savez, Abraham était d'accord avec Dieu quand Dieu lui a parlé. Il lui a donné des commandements, il lui a dit ceci et cela, ils étaient d'accord, Dieu et Abraham avec Dieu. Et là, nous voyons que c'est la même réciprocité qui se passe. Le Père est d'accord avec le Père qui est dans le ciel, le Père, Abraham, est d'accord avec le Fils, et le Fils est d'accord avec le Père. Il n'y en a qu'un qui sait, c'est Dieu, vraiment, comment ça va se passer. Il n'y en a qu'un qui sait comment les choses vont se dérouler. C'est celui qui est dans le ciel, qui est au-dessus d'Abraham, qui est au-dessus d'Isaac. Et pourtant, ils marchent ensemble. Ils font confiance. Ils se font confiance. Jusqu'au moment où Isaac a posé la question qu'il ne fallait pas poser, la question terrible. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit « Mais mon père !» Et il lui répondit « Voici mon fils !» Vous savez, quand on a bien appris à dire à notre Père Céleste « Voici », eh bien, on peut le dire de toutes les manières, on peut le dire facilement. Et Isaac reprend, il dit « Je ne comprends pas, enfin je paraphrase, hein. Je ne comprends pas, voici le feu, voici le bois. » Et la question essentielle, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau? Parce que probablement qu'Isaac avait vu déjà comment ça se passait, mais avec des animaux. Avec des agneaux. Avec, oui, des agneaux, tout simplement. Et il pose la question. Alors qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans tout cela? Notre Abraham embarrassé, racontons une histoire qui lui vient par la tête, non? Non. Moi, je crois que quelque part, il y a eu cette osmose de communion, de réciprocité, cette unité qu'il y avait entre le Père et le Fils. Comme ça se fera des siècles plus tard, entre celui qui est monté sur la croix de Golgotha avec son Père céleste, la manière dont tu lui parles, la confiance, une confiance où il n'y a aucun doute, où il n'y a aucune peur, aucune crainte. Sinon, cette parole de Jésus à la croix, au moment où il va être chargé du péché, de l'humanité, de toutes les dépravations, de toutes les corruptions, de tout ce qu'il peut y avoir de sordide et d'infernal, où Jésus à ce moment-là dira une seule fois, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais là, il y a véritablement cette union entre le Père et le Fils. Moi, je crois qu'Abraham, sans vouloir dire la tragédie de ce qui se passait dans son propre cœur de père, et sans vouloir dire et anticiper sur ce qui allait arriver, il a dû certainement lui rappeler, mais ne t'ai-je pas dit, il se fait presque finalement la parole de Dieu à ce moment-là pour son fils, ne t'ai-je pas dit que, tu l'as entendu, j'ai dit au serviteur que nous allions adorer, tu n'as rien à craindre parce qu'adorer ça ne fait pas de mal, au contraire ça ne fait que du bien, ça élève l'âme et l'esprit de l'homme. Et puis, tu as entendu mon fils Isaac, j'aurais dit que nous allions revenir ensemble, que nous allions revenir vers eux. Ça, c'est difficile à croire, quand on sait que vous avez tous les ustensiles, vous avez tous les préparatifs, vous avez le feu qui brûle, vous avez le couteau à la main, vous avez le bois sur le dos, vous avez ceci et cela, tout pourrait vous montrer que de toute façon, ça va dans le mauvais sens. Oui, alors qu'est-ce que va répondre à ce moment-là? À cette question, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham a répondu, mais mon fils. La belle parole, qui est la clé de voûte, qui est la solution, qui est la réponse, surnaturelle, miraculeuse de Dieu, mais Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Vous connaissez l'histoire, vous savez comment ça s'est passé. Hein? Mais j'essaie de faire vivre, hein? J'essaie de me mettre moi-même à la place du Père, à la place du Fils, à la place du Père qui est dans le ciel et à la place du Fils de l'homme qui est sur la terre. Parce que les choses ont été réglées de cette manière. Et on sait qu'elles ont été faites parfaitement. Alors, il lui a dit, mais Dieu pourvoira. Morija, c'est bien le nom. C'est bien la signification de ce nom Morija. Dieu voit et Dieu pourvoit. Et si nous nous mettons, nous, sur nos montagnes, si nous montons quelquefois ou si Dieu nous demande de monter sur nos collines et nos montagnes qui nous semblent inaccessibles, impossibles, infranchissables, Dieu nous dit la même chose et il le dit à celui qui est là, qui écoute, vous qui écoutez cet après-midi, tu es monté sur une montagne, tu ne comprends rien pourquoi, tu ne sais pas pourquoi tu es là, Dieu t'a demandé de ceci et cela mais tu ne comprends pas. Eh bien la réponse que Dieu vous donne et qu'il nous donnera toujours, mais je vais pourvoir. Il suffit d'une chose. De la foi et encore de la foi. Faire confiance envers et contre tout, sans comprendre, sans voir, mais d'espérer dans celui qui nous a donné une parole qui est une promesse. Qui est une promesse, qui est la promesse de Dieu. Et vous savez que les promesses de Dieu sont toutes, nous dit l'apôtre Paul, oui et amen. Il n'y a pas à douter. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Dieu dit à l'humanité, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et pourtant, ça chauffe. Il y a le feu, il y a le bois, il y a l'Holocauste, tout est prêt. À qui je dois faire confiance? Est-ce que je dois faire confiance à ce que je touche, à ce que je vois, à ce que je ressens ou ce que je pressens? Ou est-ce que je dois simplement fermer toute ma sensibilité, mon cœur et tout ça, et ne m'arrêter que sur une parole, Dieu pourvoira. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas quelle sera la nature de la délivrance. Je ne sais pas si elle viendra d'en haut, si elle viendra d'en bas. Elle vient des deux côtés. D'ailleurs, vous allez le voir, amener des deux côtés. Mais en tous les cas, je te fais confiance. Et écoutez, pour la deuxième fois dans notre texte, il nous est dit, et ils marchèrent tous deux ensemble. C'est beau, hein, ça. Toutes les apparences ne les ont pas désunis, le Père et le Fils. Ouais, toutes les apparences. Et quand on se reporte à la vie de Jésus dans l'Évangile, toutes les apparences n'ont pu désunir le Père dans le ciel et le Fils sur la terre, entre le Père céleste et Jésus-Christ. Et pourtant, les épreuves, le feu, le couteau, l'assassinat, toutes sortes de choses, la trahison, toutes sortes, tous les ingrédients étaient là pour qu'il y ait la désunion entre le ciel et la terre, entre le Père et le Fils. Tout était prévu. Et pourtant, sont allés jusqu'au bout. On entend encore le Fils dire, alors qu'il est déjà sur le mont, qu'il est déjà sur la croix, qu'il est déjà sur Golgotha, « Père, je te prie, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Et même si à un moment donné, il y a eu comme un voile sombre qui est tombé à cet instant, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus dira, avant de rendre l'esprit, il dira cette parole, « tout est accompli. » C'est ça l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. De Morija à Golgotha, mais je continue parce qu'on est encore sur Morija. Ils étaient tous deux ensemble. Alors, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu leur avait dit, Abraham y éleva un autel. C'est à cet endroit-là que Salomon mettra aussi la pierre pour faire la belle maison, le temple de Dieu, mais beaucoup plus tard. Et il a rangé le bois. Il a lié son fils Isaac. Imaginez-vous ce que ça peut être, ce que ça peut représenter. C'est impossible pour un père. Et il l'a mis sur l'autel, il l'a porté sur l'autel, au-dessus du bois. Et voilà qu'il va se passer quelque chose d'incroyable, d'inimaginable. Puis Abraham étendit la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Il ne l'a pas égorgé, mais c'était pour égorger son fils. Et il l'aurait fait. Si. Tout est prêt. C'est une tragédie. Hein. C'est quelque chose d'incompréhensible. Pour égorger son fils. Le geste est là. Les choses sont prêtes. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham ». Abraham, père de multitude, tu as ton nom. Je connais ton nom, je sais ton nom, et ton nom sera Abraham. L'ange de l'Éternel, ça vous dit quelque chose? Celui qui, dans tout l'Ancien Testament, alors que le monde est encore voilé, la révélation de Dieu n'a pas atteint sa pleine révélation, que la pensée de Dieu n'a pas atteint sa pleine révélation, l'ange de l'Éternel. Il est là, il est ici, il est ailleurs, il est partout. Et un jour, il viendra, il s'incarnera. Et il portera un nom. Emmanuel. Dieu avec nous. Jésus. Et il parle déjà. Vous connaissez ce que Jésus a dit un jour aux pharisiens? Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis celui qui suis, dont Moïse entendra parler au buisson ardent. Parce que c'est aussi une histoire de buisson dans notre affaire, là. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Le secours est venu d'en haut. Il n'est pas venu de la terre. Il est venu d'en haut à travers une parole forte. Et il dit « Abraham, Abraham !» Et il répond « Me voici !» Ah, ce qui est formidable, c'est que Abraham y répond toujours positivement. Hein. L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. » car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham pouvait dire, « Mais tu plaisantes, Seigneur. Excusez-moi, mais tu plaisantes. Je suis venu pour ça. C'est quand même une drôle de chose que tu me demandes. Au dernier moment, moi je l'ai fait de tout mon cœur. Je l'ai fait de tout mon cœur. Et aujourd'hui tu me dis, arrête, le bras. Un bras qui est rempli d'une souffrance incommensurable. Une souffrance indicible. Alors qu'il allait s'abattre sur sa propre chair. Et là voilà que le bras est arrêté avec une parole tout simplement. Mais n'avance pas ta main. Ne lui fais rien, ne lui fais pas de mal. Oh, écoutez, c'est facile à comprendre. C'est facile, très facile à comprendre. Quand Dieu a jugé le pays de Canaan, quand il a jugé les peuples païens, les nations païennes, il a dit « Tu ne tueras point ». Il l'a dit à Israël, naturellement, en priorité. Et il avait condamné, finalement, ce genre de choses. Et c'est ce Dieu qui condamne ce genre de pratiques qui incite Abraham à le faire. Non, ce Dieu ne change pas. S'il a condamné... C'est parce que c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu d'amour et un Dieu de vérité, il n'allait pas dire le contraire. Mais, Dieu dira, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils. Voilà l'épreuve. Quelle épreuve! Il n'y a pas de mots pour décrire cela. Alors moi, je vais vous dire tout de suite, entre parenthèses, que Dieu ne demandera jamais ça. Vous savez pourquoi ? Il ne demandera pas. Pour la bonne raison que c'est Dieu qui a résolu le problème. C'est lui qui a résolu la situation. Parce qu'il ne demandera pas parce que c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Alors qu'à Morija, il y a eu une voix qui a retenti du haut du ciel, « Arrête, ne lui fais aucun mal. » En tous les cas, à Golgotha, il n'y a pas eu de voix. Et les choses ont été jusqu'au bout. Parce que c'était le Dieu, le Père du ciel, le Créateur des hommes, qui lui avait envoyé son propre Fils, c'est-à-dire lui-même, l'émanation et l'essence de ce qu'il est dans la personne de Christ. Et à Golgotha, il n'y a pas eu de geste, il n'y a pas eu de voix qui arrêtait. Il a fallu que ça aille jusqu'au bout. C'est pour ça que Jésus dit à ce moment-là, juste avant d'expirer, « Tout est accompli. » Donc le Dieu ne demandera pas aux hommes. Il ne le redemandera jamais, puisque ça a été fait. C'est une préfiguration, finalement, du message de l'Évangile que nous avons devant les yeux. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique. Alors il y a un secours qui vient d'en haut, et il y a des concrétisations qui viennent d'en bas. Abraham leva les yeux, encore c'est la deuxième fois, hein, et qu'est-ce qu'il a vu? Ce qu'il n'avait pas vu auparavant. Il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson avec des cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À la place de. Abraham a levé les yeux, mais c'était les yeux de la foi. Parce que comment ne pas voir ce bélier qui était pris dans les buissons au moment où il est monté? Il ne le voyait pas à ce moment-là. Mais là, au moment où la chose a été accomplie, que Dieu a pu lui dire « Mais je sais que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé. Alors à ce moment-là, je peux te montrer tout le reste. » Et il y a le substitut. Il y a à la place, finalement, de ton fils. Tu descends ton fils de l'autel le plus vite possible maintenant. C'est fini. Ça y est, c'est terminé. Et tu mets le bélier à la place. Et vous savez qu'il y aura des milliers et des milliers, des millions d'agneaux qui sont sacrifiés tous les jours en Israël par rapport justement à cela. Et il a vu ce bélier, il est allé le chercher et il l'a offert en holocauste à la place d'Isaac. Vous savez, nous sommes tous, toute l'humanité à la place d'Isaac. Ouais. Et il y a quelqu'un qui a pris notre place, qui a été immolé, où le bras n'a pas été retenu, où là, il n'y a pas eu de voix. Ça a été le silence de mort. Et ça a été tranché. Jésus-Christ a donné sa vie. Il a été victime expiatoire. Et je peux dire que Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Et aujourd'hui, je peux m'approcher dans la disposition que pouvait l'être Abraham et dans la disposition que pouvait être Isaac, c'est que nous sommes, si nous croyons en Jésus-Christ, celui qui est mort à notre place, c'est que nous sommes libres, nous sommes affranchis, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous avons tout, absolument tout, à cause, finalement, de Golgotha. Ça ne pouvait pas se faire à Morija parce que c'était une histoire entre un homme, entre Dieu et un homme. Mais là, c'était une histoire qui était entre Dieu et Dieu. Et si nous ne pouvons rien, Dieu peut tout. Et il a donné la solution. Et tous ceux qui aujourd'hui croient que Jésus est leur sauveur, eh bien, ils sont sauvés. Nous avons la vie. Nous avons la vie éternelle. Et quelque part, excusez-moi, mais ça nous est passé pas loin quand même, hein, la mort éternelle. Parce que s'il n'y avait pas eu l'intervention de Dieu pour nous appeler, pour nous sauver, pour nous dire, Abraham, d'une manière ou d'une autre, viens, j'ai quelque chose à te dire, je voudrais te sauver. Si nous n'avions pas eu le coup de main de Dieu, avec la repentance, avec la conversion et avec la nouvelle naissance, mais nous serions encore dans notre perdition. Ça ne nous est pas passé loin, le couteau et le feu, n'est-ce pas? Nous étions sur le bûcher, mais pas le bûcher de Dieu, le bûcher de l'adversaire. Celui qui veut immoler, finalement, gratuitement, détruire et ruiner la terre. Ah! Aujourd'hui, nous pouvons dire, mais nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce que nous avons cru et nous sommes sauvés uniquement en vertu de la grâce de Dieu, de son sacrifice, du sacrifice de Jésus. Alors, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré, ou si vous aimez mieux dans une traduction qui n'est pas tout à fait très régulière, mais Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et à chaque fois que je monte une montagne, que je l'appellerai d'une manière ou d'une autre, des épreuves, des difficultés, des tentations, la maladie, et toutes sortes de choses qui sont le propre de l'humanité, eh bien moi je peux me dire que la porte de sortie est déjà là. Dieu a pourvu. Et nous n'avons pas à nous affoler, nous n'avons pas à paniquer, nous n'avons pas à croire que Dieu nous a abandonnés, puisqu'il a pourvu. C'est pas à faire, c'est fait. Et c'est par la foi que je dois m'approcher de cela. Je termine. L'ange de l'Éternel appelait une seconde fois Abraham. Il nous appelle et il nous rappelle. Une seconde fois, et il lui dit, alors là c'est un serment, il n'y a que Dieu qui peut dire ça, pas nous. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Donc vous avez bien compris que l'ange de l'Éternel c'est Dieu. Il jure par moi-même. Bon. Et je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et c'est là où nous avons l'autre versant de l'épreuve, de l'affliction, là où Dieu nous conduit, qui quelquefois semble tellement amer, mais nous ne savons pas ce qui va se passer, et ça sera toujours des choses heureuses qui en ressortiront, on peut le dire et l'affirmer. Parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Tu ne t'appelles pas Abraham, père de multitude, pour rien. Et quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous donne un nom, quand il nous donne une vocation, quand il nous donne ceci ou cela, ce n'est pas pour rien. Il ira au bout si nous, nous voulons aller avec lui et lui faire confiance jusqu'au bout. Alors, tu sais, Abraham, hein, tu vas regarder vers le ciel et tu verras, enfin, tu ne verras pas, mais je te le dis, tu le verras quand tu seras de l'autre côté. Eh bien, moi, je te dis, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Oui, vraiment père de multitude. Abraham. Vous savez, le Seigneur ne veut pas nous donner avec parcimonie. Il ne veut pas nous donner au compte-gouttes. Il ne veut pas nous dire, ah ben ça suffit parce que c'est assez pour toi. Le Seigneur veut nous bénir jusqu'à la plénitude. Ouais. Mais est-ce que nous sommes capable de contenir cette plénitude? Dieu est obligé de se mettre quand même un peu à notre niveau, parce qu'autrement on déborderait. Et en fait de débordement, on déborde. Parce qu'on n'est pas capable de contenir la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, les bénédictions de Dieu. C'est pour ça qu'il est sage, notre Dieu. Il nous donne ce dont nous avons besoin et pas plus. C'est normal. Et pourtant la bénédiction, elle est à l'infini. Elle est sans commune mesure avec ce que nous pouvons imaginer. Alors, tu posséderas et ta postérité possédera les portes de tes ennemis, le pays de tes ennemis. Ah, dites donc, hein, il fait parler encore aujourd'hui, Abraham. Hein. La diaspora, ça vous dit quelque chose? C'est le monde entier. Hein. Dans le monde entier. J'allais dire dans le monde entier, le Saint-Esprit agit, oui. Ça, c'est sûr. Jusqu'aux portes de tes ennemis. Et les ennemis qui voulaient la mort, les ennemis qui portent le feu, qui portent le couteau, eh bien, on peut se dire, si nous sommes des fils d'Abraham, des croyants d'Abraham, mais dans la foi, hein, pas dans la tradition, alors à ce moment-là, je peux vous dire que l'ennemi a été vaincu, il est par terre, et il ne peut rien faire contre le peuple de la foi. Ouais, le peuple de la foi. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité par ce que tu as obéi à ma foi, à ma voix, pardon, que tu as obéi, si vous voulez que je traduise, tout simplement par la foi. Alors, quelle belle histoire, hein, de Morija à Golgotha. Alors, merci Seigneur. Merci parce que nous ne sommes plus au temps de Morija. Mais Morija, c'était tout simplement une préfiguration. C'était une anticipation de ce que Dieu ferait le plus beau et le plus grand de tous les cadeaux. Finalement, que la terre n'ait jamais connu. La venue, non pas d'un agneau, oui, mais de celui qui véritablement a le caractère de l'agneau, qui est descendu du ciel, qui s'est incarné, ce Dieu qui s'est incarné, qui a pris notre place, et qui nous dit, eh bien, que si nous croyons, et je relais, tout simplement je reprends les paroles de l'apôtre Jean, que si nous croyons en son nom, nous avons la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Que Dieu nous donne sa grâce et que ça soit une bénédiction pour tous ceux qui lisent la Bible, une bénédiction pour tous ceux qui entendent ce message ici et ailleurs. Alors nous allons prier maintenant et nous allons demander au Seigneur véritablement que nous comprenions le sens unique de ce qu'est, eh bien là, l'histoire de Morija qui nous ramène naturellement à Golgotha avant une autre étape qui sera la présence de Dieu dans l'éternité, dans le ciel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que tu nous parles et tu nous as souvent parlé avec des images, avec des paraboles, avec de belles allégories, parce que c'est comme ça que nous avons besoin de comprendre. Alors c'est vrai que tu n'as jamais voulu que les choses se passent comme ça et aillent jusqu'au bout avec Abraham et Isaac, mais tu nous as montré que toi, tu irais jusqu'au bout, avec celui que tu as choisi pour sauver l'humanité, c'est-à-dire avec la personne de Jésus. Alors merci Seigneur pour Morija, parce que c'est une image. Mais en ce qui concerne Golgotha, ce n'est pas une image, c'est une réalité. C'est une vérité. C'est en effet, Seigneur, la déclaration solennelle de Dieu pour que chacun et chacune nous entendions ton appel. Lorsque tu nous dis tout simplement, eh bien, que tu veux nous bénir. Et souvent, souvent, Seigneur, la bénédiction, elle est précédée d'une épreuve. Alors donne-nous de comprendre, non pas l'épreuve elle-même, mais de comprendre ce que ta voix veut nous dire à travers l'épreuve, et qu'ainsi, jamais, au grand jamais, nous tombions dans le découragement, nous tombions dans l'apathie, nous tombions, Seigneur, dans le doute, ou voire même l'incrédulité, lorsque le feu et le couteau passent sur notre vie, que nous puissions avoir un regard qui va beaucoup plus loin, parce que toi, tu écartes le couteau, tu écartes, en effet, le feu, tu écartes l'autel, pour nous amener à comprendre, Seigneur, que celui qui triomphe par la foi, eh bien, Seigneur, est digne à ce moment-là. Oui, une dignité qui ne vient pas de nous, mais une dignité qui est donnée à cause de Jésus-Christ, eh bien, de recevoir les multiples bénédictions, les multiples grâces qui sont en réserve pour celui qui croit, en réserve dans le ciel, et tu les fais descendre sur nos vies et sur cette terre. Nous te remercions et nous te bénissons. Merci Jésus. Tu bénis mes amis. Tu les encourages à croire. Tu les fortifies dans la compréhension de ta parole et tu leur donnes de comprendre. Oui Seigneur, qu'il n'y a qu'une réponse, qu'il n'y a qu'un remède, qu'il n'y a qu'une solution, c'est Jésus-Christ à Golgotha. Merci Seigneur, parce qu'après la mort, il y a toujours une résurrection. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Amen.